Je vais aussi donner la parole à Marc Lamère, qui va traiter des états généraux de l'Assemblée constituante des séparations des pouvoirs. On va accueillir Michel Tropper, et à moins qu'il reste là en bas, voilà, pour le moment, c'est ça. Qui va nous parler, je dirais, assez précisément des débuts de cette problématique de la séparation des pouvoirs à l'époque révolutionnaire. Et je pense qu'effectivement, être ici dans la salle du jeu de paume est lourd de signification. Alors, je présente Marc Lamère, il est avocat, il a fait un DEA de sciences politiques et de théorie du droit, il est docteur en droit, il est co-directeur du groupe d'études CISN sur CIS et chargé d'enseignement et de travaux dirigés en droit public et sciences politiques dans diverses universités, à l'université de Cergy-Pontoise, Paris 1, Paris 2, etc. Il travaille justement sur, outre son travail d'avocat, travaille sur la période allant du XVIIe au XIXe siècle, dans le cadre du droit constitutionnel, dans le cadre de l'histoire des idées et de la philosophie politique, et il est spécialiste du droit constitutionnel de la Révolution française. Vous trouverez sur notre site sa bibliographie, et notamment un livre « La Constitution américaine dans le débat français, 1795-1848 », publié chez l'Harmattan en 2001, plus toute une série d'articles. Je lui donne la parole, donc, pour le temps dont nous sommes convenus.
Merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous disposons d'une classification tripartite pour penser la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a trois types possibles de séparation des pouvoirs. Premier cas, très bien connu, un régime de séparation absolue des pouvoirs, dit encore régime présidentiel américain, qui se caractérise essentiellement par deux critères, à savoir, premier point, l'élection du chef de l'État au suffrage universel direct et absence de responsabilité politique de l'exécutif devant le législatif. Donc, premier point, séparation absolue. Second point, dira-t-on, il y a un autre type de régime possible, assis également sur la séparation des pouvoirs, mais cette fois-ci sur une séparation souple des pouvoirs, c'est donc le régime parlementaire, qui est un régime de collaboration des pouvoirs, avec notamment comme points principaux la responsabilité politique du gouvernement devant le Parlement, et également le droit pour l'exécutif de dissoudre le Parlement. Et puis enfin, dit-on, il y a finalement une troisième catégorie que l'on peut imaginer, qui est celui de l'absence de la séparation des pouvoirs, donc un régime de confusion des pouvoirs, que l'on appelle également régime d'assemblée ou régime conventionnel, en faisant référence précisément au régime de fait de la Convention pendant la Révolution française. Donc voilà, finalement, nous avons trois catégories, séparation absolue, séparation souple ou absence de séparation. Régime présidentiel, régime parlementaire ou régime de confusion des pouvoirs. Donc, notre premier mouvement serait peut-être de dire que finalement, pour comprendre ce que les constituants en 1789 ont voulu faire, eh bien, il nous faut appliquer ces trois catégories et dire dans quelle catégorie les constituants se sont placés. Quel régime ont-ils entendu faire? Ont-ils entendu faire un régime présidentiel, séparation absolue, un régime parlementaire, séparation souple, ou bien ont-ils récusé le principe de la séparation des pouvoirs et ont-ils voulu un régime de confusion des pouvoirs? Eh bien, précisément, ce réflexe-là, qui serait logique un petit peu, puisque ce sont les outils conceptuels que l'on utilise aujourd'hui, est à bannir, parce que c'est un anachronisme. Il ne faut absolument pas utiliser cette classification lorsqu'on travaille sur la Révolution française, pour une raison fort simple, c'est qu'à l'époque, cette classification n'existait pas. Il faut bien comprendre que les outils que l'on utilise, les outils conceptuels, sont datés. Cette classification, précisément, procède de la fin, disons, du dernier tiers du XIXe siècle. On peut même la dater assez précisément parce qu'elle est consécutive à un livre très important, qui d'ailleurs a été déjà évoqué ce matin, qui est le livre intitulé « La Constitution anglaise », écrit en 1867 par Walter Badgeau. Un livre qui eut un succès considérable, aussi bien en Grande-Bretagne, en France, où il est traduit deux ans après, en 1869, et également aux États-Unis. Bon. Et c'est sur la base de ce livre, sur lequel peut-être je reviendrai en fin d'intervention ou dans le cadre des questions, parce que c'est un livre fondamental. C'est sur la base de ce livre qu'est née cette tripartition que j'ai évoquée, à savoir régime présidentiel américain fondé sur la séparation absolue, régime parlementaire fondé sur la collaboration des pouvoirs et régime de confusion des pouvoirs. Mais jusqu'alors, cette classification n'était pas connue. Par conséquent, il ne faut pas l'appliquer à la Révolution française. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous disiez aux constituants de Philadelphie en 1787, lorsqu'ils viennent de voter la Constitution américaine, qu'ils ont créé un régime présidentiel, ils ne comprendraient pas ce que vous leur dites. N'est-ce pas? Parce que le terme même de régime présidentiel n'existait pas, et a fortiori la théorie sur laquelle il repose. Non seulement ils ne l'auraient pas comprise, mais ils l'auraient trouvée, pour tout vous dire, inadaptée à l'œuvre qu'ils venaient de faire. De même, à l'époque, le terme de régime parlementaire n'existait quasiment pas. On peut trouver dans la littérature de l'époque, très rarement, vous le trouverez, c'est une occurrence que l'on trouve très rarement, on peut la trouver, le terme de régime parlementaire, mais à cette époque, si jamais il était utilisé, cela signifiait non pas ce qu'on sait aujourd'hui, à savoir un régime politique où le gouvernement est politiquement responsable devant le Parlement, mais simplement un régime où il y a un Parlement, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui un régime représentatif. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on parlait d'un régime parlementaire, on voulait simplement dire que c'était un régime où il y avait un Parlement. Bien, cela étant posé, puisque notre classification, qui nous est tellement commune aujourd'hui, n'est pas opératoire, la question essentielle est de savoir quelle était précisément la classification qu'avait à l'esprit les constituants de 1789, parce qu'évidemment, ils en avaient une, mais qui n'est plus la nôtre. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Eh bien, pour comprendre précisément cette classification, il faut partir d'un fait essentiel, qui est qu'à l'époque, on pensait la théorie du droit constitutionnel sur la base d'un élément essentiel qui était la hiérarchie des fonctions étatiques. Et dans ce cadre, effectivement, cela a été dit ce matin, la fonction législative était la fonction première, n'est-ce pas? En grande partie, cette donnée fondamentale du droit public était consécutive à un livre qui est paru en 1576, qui était les Six livres de la République de Jean Bodin. Jean Bodin, dans ce livre, entre autres, s'était essayé à définir la souveraineté, c'est-à-dire la puissance suprême. Et il disait une chose très simple, c'est que finalement, cette souveraineté est constituée par différentes marques de souveraineté. C'est-à-dire, si vous voulez, différentes missions étatiques. Et parmi ces différentes marques de souveraineté, la plus importante était celle de donner la loi. Et finalement, disait-il, toutes les marques de souveraineté se résorbent dans cette marque de souveraineté qu'est le fait de donner la loi. Donc, il était résulté de ce livre, qu'il a encore eu un succès considérable à l'époque, aussi bien en France qu'en Grande-Bretagne, puisqu'il sera traduit dès 1606 en Grande-Bretagne. Il était donc résulté de ce livre que, finalement, la souveraineté, tout au moins le pouvoir législatif, était consubstantiel à la souveraineté, ou tout au moins était son attribut essentiel. Donc, vous aviez une hiérarchie des fonctions dans laquelle la fonction législative était première, et face à cela, la fonction exécutive était au plan politique de peu d'intérêt. C'était une fonction de pure application de la loi. D'accord ? Donc, ce qui importait, évidemment, pour un organe politique qui voulait être actif, qui voulait marquer la société, c'était non pas tant de détenir la fonction exécutive, mais la fonction législative qui permettait donc de donner la loi. Voilà. Donc, sur la base de cette donnée fondamentale, les publicistes de l'époque avaient une façon de définir les constitutions qui était très simple. Ils distinguaient les constitutions suivant la structure de l'organe législatif. Puisque la fonction législative était la fonction première, essentielle, n'est-ce pas ? C'était en quelque sorte la souveraineté elle-même. On caractérisait la forme d'un régime politique par rapport au nombre d'organes qui étaient détenteurs de cette souveraineté, de cette puissance législative. Donc c'était très simple, on distinguait d'une part les régimes avec unité législative, c'est-à-dire ceux où il y avait un seul organe qui était détenteur de la totalité de la fonction législative, d'une part, et puis d'autre part, on distinguait les régimes dans lesquels la fonction législative était distribuée entre un ou plusieurs organes partiels de législation. Alors, je vais vous citer, je vais très peu lire, mais je vais vous citer ici un passage très rapide d'un livre qui est paru en 1793, qui a été un grand succès d'ailleurs à l'époque dans la préparation des débats constituants de l'an 3, et qui émane d'un publiciste qui s'appelle Adrien Le Zemarnesia, et dans lequel il nous explique comment, effectivement, à l'époque, on définissait une constitution. Et il dit la chose suivante. À quel signe distingue-t-on une constitution d'une autre? Ou en d'autres termes, en quoi réside le caractère spécifique d'une constitution? Il réside dans la constitution particulière du pouvoir législatif. Donc voyez-vous, c'est très simple. Suivant qu'il y ait un ou plusieurs organes partiels de législation, nous avions des constitutions différentes. Donc ça, c'est le point de départ fondamental de la théorie de l'époque. Seconde conséquence de ce principe de la hiérarchie des fonctions, la notion d'équilibre des pouvoirs était une notion qui, là encore, avait un sens qui n'est plus le même aujourd'hui. Quand un publiciste du XVIIIe siècle parlait d'équilibre des pouvoirs, il renvoyait à une acception très technique de ce terme et donc à un certain mode de régime politique. Puisque la fonction législative était la fonction première, un organe qui ne détenait pas cette fonction législative ne pouvait pas équilibrer l'organe législatif, hein, puisqu'il n'était pas détenteur de cette puissance suprême. Pour qu'il y ait un équilibre des pouvoirs, donc un équilibre entre certains organes, il fallait que tous ces organes participent à cette fonction législative. D'accord ? Donc, la notion d'équilibre des pouvoirs qui est courante à l'époque signifiait équilibre entre les différents organes qui participent à la fonction législative. Alors, de quelle façon cet équilibre des pouvoirs pouvait-il être réalisé ? Il y avait essentiellement trois façons. La première façon, c'était lorsque l'organe exécutif lui-même participait à la législation de deux manières. Soit il était nanti du monopole de l'initiative législative, donc du droit de proposer un texte, comme c'était par exemple le cas dans les institutions de Genève, hein, Genève qui était la patrie de Rousseau, Genève a beaucoup marqué la pensée politique de Rousseau, soit comme en Grande-Bretagne, où le roi disposait d'un droit de sanction à l'égard des textes votés par le Parlement, c'est-à-dire qu'il devait donner son accord sur les textes votés par le Parlement, et s'il s'y refusait, eh bien, il opposait son veto. Hein, vous savez que veto signifie en latin « je m'oppose ». Bon. Donc, premier cas de figure, associé l'organe législatif, exécutif, pardonnez-moi, à la législation. Seconde possibilité, eh bien, plutôt que d'avoir un seul corps législatif, un seul parlement, on va diviser ce parlement en plusieurs chambres. Ce pouvait être en deux chambres, plus communément, hein, comme ce fut par exemple le cas en France lors de la constitution de l'an 3, c'est-à-dire la constitution du 22 août 1795, où on avait établi d'une part un conseil des 500 et d'autre part un conseil des anciens, hein, donc un parlement divisé en deux chambres. Et puis troisième solution, elle consiste simplement à conjuguer les deux premières solutions, c'est-à-dire qu'on va d'une part accorder à l'exécutif un droit de décision en matière législative et en plus on va diviser le Parlement lui-même. C'était ce qu'on appelait la tripartition du pouvoir législatif avec comme institution modèle, le régime britannique, qui était un modèle de l'époque, qu'on appelait le régime du roi en son parlement, parce que donc le pouvoir législatif était distribué entre une chambre basse, la chambre des communes, une chambre haute, la chambre des lords, et puis le roi, qui disposait donc d'un droit de sanction et donc d'un droit de veto absolu. Et c'était également le cas des États-Unis d'Amérique, de cette constitution du 17 septembre 1787, là encore fondée sur la tripartition du pouvoir législatif, avec un congrès composé d'une chambre basse, la chambre des représentants, une chambre haute, le Sénat, et un président de l'Union qui était doté de ce qu'on appelle toujours d'ailleurs un droit de veto conditionné, c'est-à-dire qu'il ne pouvait être surpassé qu'à la majorité de 2/3 par un vote de chaque chambre. D'accord ? Donc, équilibre des pouvoirs au XVIIIe siècle, ça c'est fondamental, signifie équilibre au sein de l'organe législatif entre les différents organes partiels. Eh bien, cette technique, on l'appelait au XVIIIe siècle la balance des pouvoirs. Cette notion a été évoquée ce matin même et hier également. Donc, c'était la balance des pouvoirs, c'est-à-dire l'existence d'au moins deux organes partiels de législation. Bon. Historiquement, cette balance des pouvoirs était assise sur ce qu'on appelait le gouvernement mixte. Le gouvernement mixte est une formalisation qui nous vient de l'Antiquité. et qui, grosso modo, partait de l'idée qu'aucun régime simple n'est satisfaisant, donc la démocratie en tant que telle n'est pas satisfaisante, l'aristocratie non plus, la monarchie non plus, parce que ces régimes considèrent un seul intérêt social. Donc l'idée, c'était de mixer ces trois formes simples de régime en un régime composé, donc mixte, de façon à ce que l'ensemble des intérêts sociaux soient pris en compte dans ce régime. Alors, cette idée de gouvernement mixte rapportée au XVIIIe siècle et donc conjuguée avec notre principe de la hiérarchie des fonctions impliquait que chaque classe sociale participait à la législation par l'intermédiaire d'un organe. Le modèle du gouvernement mixte au XVIIIe siècle, c'est la Grande-Bretagne. Nous avons le peuple qui participe à la législation en élisant des représentants au sein de la Chambre basse. Nous avons la noblesse qui est présente au sein de la Chambre des Lords, la Chambre haute. Et puis nous avons le roi donc, qui participe à la législation par son droit de sanction. Alors, toutes les balances des pouvoirs ne reposaient pas sur des gouvernements mixtes, c'est-à-dire qu'on pouvait tout à fait dissocier les deux éléments. Ce fut par exemple le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, il n'y a pas de gouvernement mixte, mais il y a une balance des pouvoirs, n'est-ce pas ? Puisque nous avons trois organes partiels de législation, mais qui tous représentent le peuple. Donc ils ne représentent pas un intérêt social différent, ils représentent le peuple. De même, ce fut le cas, je l'ai dit, en France, sous l'an III, où nous avons une balance des pouvoirs également, avec nos deux conseils, des 500 et des anciens, mais qui, là encore, représentaient le peuple hein, sur la base d'une égalité juridique. Donc, nous avions une balance des pouvoirs sans gouvernement mixte. Bon. Alors, sur cette base, quelle était la conséquence sur la notion même de séparation des pouvoirs ? Eh bien, vous voyez que lorsqu'il y avait une balance des pouvoirs, notamment lorsque l'organe exécutif participait à la législation, dans ce cas, il n'y avait pas de séparation absolue des pouvoirs, puisque l'organe exécutif participait à la législation. Donc ça impliquait quoi en termes de définition de la séparation des pouvoirs ? Ça impliquait que celle-ci devait être comprise dans un sens précis, à savoir le suivant, que c'était une règle de non-cumul. Bon, le raisonnement est assez simple. On part d'un constat, il y a confusion des pouvoirs lorsqu'un organe détient au moins deux fonctions étatiques. Par exemple, la fonction exécutive et la fonction législative. Donc, il y a confusion des pouvoirs lorsqu'un seul organe est attributaire de l'ensemble de ces deux fonctions étatiques. A contrario, il y a séparation des pouvoirs lorsqu'il n'y a pas deux fonctions, ou a fortiori trois fonctions étatiques confiées à un seul organe. Eh bien, c'était par exemple le cas de la Grande-Bretagne. Prenons le cas anglais que nous avons vu. Notre roi ici, qui est détenteur de la totalité du pouvoir exécutif, n'est pas détenteur de la totalité du pouvoir législatif, puisqu'il le partage avec les deux chambres. Donc nous sommes ici dans un cadre de séparation des pouvoirs, puisqu'il n'y a pas deux fonctions étatiques attribuées à un seul organe. Donc la séparation des pouvoirs, c'était l'antonyme de la confusion. Il y a séparation quand il n'y a pas deux fonctions étatiques confiées à un seul organe. Donc, tout cela pour dire quoi, même si c'est un peu long, parce que c'est essentiel, c'est que au XVIIIe siècle, la notion de séparation des pouvoirs ne coïncidait pas nécessairement avec celle de séparation absolue, telle que nous la concevons aujourd'hui. D'accord ? Il pouvait y avoir séparation des pouvoirs alors même que l'exécutif participait à la législation, du moment qu'il ne cumulait pas deux fonctions. D'accord ? Alors, en vérité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et même si cela peut paraître bizarre, il faut savoir, à mon sens en tout cas, que la notion de séparation des pouvoirs n'était pas définie au XVIIIe siècle. C'était une notion, à mon sens, ambivalente. C'est-à-dire que personne précisément ne s'accordait sur la signification précise de cette séparation des pouvoirs. Certains pensaient précisément qu'il s'agissait d'une règle de non-cumul, donc qu'à partir du moment où un organe n'était pas attributaire de la totalité des deux fonctions étatiques, il y avait séparation des pouvoirs. D'autres, en revanche, pensaient que non, il fallait une interprétation littérale de celle-ci, et que si un organe exécutif participait à la législation, nous avions une violation de la séparation des pouvoirs. Donc que celle-ci équivalait à une séparation absolue. Eh bien, c'est avec cette notion indéfinie de séparation des pouvoirs que tout le droit public du XVIIIe siècle s'est construit. Alors, cette ambiguïté qui était inhérente à la séparation des pouvoirs est très compréhensible quand on regarde la genèse de cette notion de séparation des pouvoirs. Je vais y revenir brièvement, parce que c'est important. Cette notion s'impose dans le débat politique de façon très précise, même si on peut trouver les linéaments avant cette époque-là, mais disons qu'elle devient un critère du débat politique lors de la Révolution anglaise de 1640 à 1660. Alors, cette révolution anglaise, on l'appelle en doctrine la Grande Rébellion ou la Révolution puritaine, parce qu'elle fut due en grande partie pour des motifs politiques, mais également pour des motifs théologiques, sur lesquels je ne m'étendrai pas ici, d'où ce nom de révolution puritaine. Et c'est une révolution qui, pour nous, Français, consonne de façon très forte, parce qu'elle aboutit en 1649, au 30 janvier 1649, à l'exécution du roi Charles Ier. Et nous ne sommes pas les premiers à avoir exécuté notre roi, déjà les Anglais en 1649, rendez-vous compte, donc plus de 100 ans avant nous, largement, avaient exécuté leur roi le 30 janvier 1649, et donc aboli la monarchie. Eh bien, c'est dans le cadre de cette première révolution anglaise que la notion de séparation des pouvoirs va s'imposer dans le débat politique. Alors, sous l'effet de quoi ? Sous l'effet essentiellement d'un courant de pensée qui va être celui des niveleurs, levelers en anglais. Alors, dans la traduction française de l'époque, on les appelait les aplanisseurs, mais depuis on les appelle les niveleurs, qui vont être l'aiguillon intellectuel de cette révolution et qui vont faire avancer considérablement les notions du droit public pendant cette révolution. Par l'intermédiaire notamment de trois projets de constitution, qui s'appelait l'accord du peuple, Agreement of the People en anglais, qu'ils ont livré en novembre 1647, en décembre 1648 et le 1er mai 1649. Et dans le cadre de ces projets de constitution, eh bien, ils établissaient des institutions fondées sur une séparation absolue des pouvoirs, c'est-à-dire sur une unité législative. C'est-à-dire qu'ils instituaient d'une part un parlement monocaméral, composé d'une seule chambre, avec en face d'eux un organe collégial titulaire du pouvoir exécutif qui ne participait pas à la législation. Et, disait-il, finalement, les bonnes constitutions sont fondées sur la séparation des pouvoirs qui implique que, effectivement, chaque organe détienne sa propre fonction étatique. Alors, ce nouveau critère s'est imposé à tel point, d'ailleurs, que l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne, qui à cette époque s'est dotée de deux constitutions, s'est vu obligé de justifier ces deux constitutions écrites sur le fondement de la séparation des pouvoirs. Parce que, il faut le savoir, l'Angleterre, que l'on présente généralement à juste titre comme le pays de la constitution coutumière, n'est-ce pas, dans les études de droit, eh bien, fut là aussi le pays le premier, sans doute en Europe, encore qu'on puisse en discuter, à établir des constitutions écrites. Ce fut la première en 1653, ce qu'on a appelé l'instrument de gouvernement, et puis la seconde en 1657 avec l'humble requête et avis. Eh bien, cette première constitution, celle de l'instrument de gouvernement en 1653, qui était le fait de Cromwell, qui était l'homme fort de la Révolution anglaise, là aussi a été justifiée en termes de séparation des pouvoirs par un journaliste opportuniste qui s'appelait Markhamon Needham, qui a changé inlassablement de camp durant cette révolution, comme beaucoup d'autres, mais qui, pour le coup, qui était missionné par Cromwell pour justifier sa constitution en termes de séparation des pouvoirs. Donc pour dire, voyez-vous, nous avons une bonne constitution parce qu'elle est fondée sur la séparation des pouvoirs. Alors, cette constitution avait, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est un peu trop technique, mais pour l'essentiel, elle mettait face à face un parlement monocaméral et ce qu'on appelait le protecteur, qui plus ou moins ne participait pas à la législation, encore que ça pouvait se discuter, mais disons d'une façon générale, il ne participait pas. Et donc là aussi, on a justifié cela en termes de séparation des pouvoirs. Et c'était tellement nécessaire que lorsqu'en 1657, on réforme la Constitution et on établit une tripartition du pouvoir législatif, c'est-à-dire des institutions calquées en vérité sur le gouvernement traditionnel de la Grande-Bretagne, à savoir une chambre basse, une chambre haute, et un organe exécutif attribué non plus à un roi, mais à un protecteur, eh bien là aussi, on va être obligé de justifier cela en termes de séparation des pouvoirs. Mais problème, nos trois organes ici, et notamment le protecteur, participaient à la législation. Donc c'était plus une séparation absolue. Eh bien peu importe, on a dit, mais là aussi, il y a une séparation des pouvoirs, et d'où la référence à cette règle de non-cumul que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait séparation des pouvoirs puisque aucun organe détenait la totalité de deux fonctions étatiques. Donc, au terme de cette première révolution anglaise en 1660, lorsque la Restauration arrive, que Charles II monte sur le trône, eh bien, les publicistes favorables à la Restauration, là encore pour légitimer le gouvernement anglais, vont être obligés aussi de légitimer le gouvernement en termes de séparation des pouvoirs. Et ils vont nous dire, ce gouvernement traditionnel, donc avec une chambre basse les communes, une chambre haute les lords, et puis ce roi doté d'un droit de sanction, participe de la séparation des pouvoirs. Donc ça veut dire quoi en termes théoriques? Que la séparation des pouvoirs s'analysait essentiellement comme une règle de non-cumul à nouveau, et non pas comme une séparation absolue. Bon. Deuxième moment fondateur de la séparation absolue, John Locke, qui en 1689 fait paraître son second traité sur le gouvernement civil, et qui là aussi va, en deux mots, sans entrer dans le détail, justifier le gouvernement mixte britannique, et nous expliquer que ce gouvernement mixte reposait sur la séparation des pouvoirs. Bon, quel était l'enjeu? On a longtemps pensé que ce second traité sur le gouvernement civil, paru en 1689, avait été écrit pour justifier la deuxième révolution anglaise du XVIIe siècle, à savoir la glorieuse révolution de 1689. Et en fait, il a été prouvé que c'était faux. Hein. C'est notamment Peter Laslett qui a établi ce point, le premier. Et il nous a fait savoir que ce livre avait été écrit non pas en 1689, mais en 1680, à l'occasion de ce qu'on a appelé la crise de l'exclusion. Je vous la retrace en deux mots. C'était Charles II qui était sur le trône, et il était prévu que ce soit son frère, le duc d'York, qui lui succède. Et c'est d'ailleurs ce qui se passera en 1685. Mais problème, ce duc d'York était papiste, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire qu'il était converti à la religion catholique. Or, les protestants britanniques considéraient que le papisme était le terreau intellectuel de la monarchie de droit divin, comme c'était le cas en France avec Louis XIV. Donc, les opposants à Charles II ont, au sein du Parlement, voulu mettre en œuvre ce qu'on a appelé un bill d'exclusion, une loi d'exclusion, de façon à ce qu'il soit interdit à son frère, le duc d'York, de lui succéder. Et pour faire taire cette menace, Charles II a fait une chose très simple, qui était assez coutumière dans l'histoire anglaise, c'est qu'il a dissous le Parlement et puis il ne l'a plus convoqué. Donc, il cassait en quelque sorte ce gouvernement mixte anglais, puisque le roi restait seul, finalement, sans Parlement. Il légiférait sans Parlement. Donc, c'était la négation de ce gouvernement traditionnel de la Grande-Bretagne, du gouvernement mixte, de la tripartition du pouvoir législatif. Eh bien, Locke, qui était en fait la plume intellectuelle du principal opposant à Charles II, qui était Anthony Ashley Cooper, comte de Shrewsbury, Locke a donc rédigé son livre pour restaurer ce gouvernement mixte, et pour le justifier, il a dit effectivement que ce gouvernement mixte participait de la séparation des pouvoirs. Et donc là encore conclusion par rapport à notre séparation des pouvoirs, ça voulait dire que Locke concevait lui aussi la séparation des pouvoirs comme une règle de non-cumul, puisqu'il permettait au roi de participer à la législation. Et puis, troisième moment fondateur de la séparation des pouvoirs, donc je ne dirai qu'un mot puisque le professeur Goldzinck a tout dit hier sur ce sujet, Montesquieu, son esprit des lois qui paraît en 48, et qui, dans le chapitre 6 du livre 11, fait la théorie, n'est-ce pas, du régime anglais, et nous explique que ce régime repose sur la séparation des pouvoirs. Mais là encore, si on lit précisément ce chapitre 6 du livre 11, car encore faut-il le lire précisément, car c'est loin d'être le cas hein, dans la doctrine, Montesquieu dit très clairement qu'il ne s'agit pas d'une séparation absolue, c'est une idée qui n'a aucun sens pour lui, et il dit très clairement que le roi participe à la législation, notamment avec son droit de sanction, entre autres, parce qu'il dit également, par exemple, que le Parlement participe au pouvoir juridictionnel. Lorsqu'un fonctionnaire public en Grande-Bretagne est mis en accusation, il est mis en accusation par la Chambre basse, et c'est la Chambre haute qui le juge. Donc vous avez ici l'exercice d'une part de la fonction juridictionnelle par le Parlement. Donc Montesquieu nous dit: le régime modèle, c'est le régime britannique, lequel repose sur la séparation des pouvoirs. Laquelle séparation des pouvoirs est une règle, là encore, de non-cumul? Alors, cette introduction un peu longue est en fait, mais nécessaire. J'en arrive à 89 pour vous dire quoi? Quel était le mode de raisonnement et quels étaient les choix qui se proposait à nos constituants. Eh bien, c'était très simple. Il ne s'agissait pas de formaliser un régime présidentiel qui n'existe pas, un régime parlementaire qui n'existe pas. Il s'agit de faire le choix fondamental entre l'unité législative, donc la séparation absolue, ou la balance des pouvoirs, donc la division du pouvoir législatif entre plusieurs organes. C'est ça le choix institutionnel qui est présenté à tout publiciste de la fin du XVIIIe siècle en France. Alors, quelle fut précisément la réponse apportée ? Alors, on m'a demandé donc de traiter à la fois les États généraux et la Constituante. Alors, les États généraux, finalement, c'est assez simple. C'est assez simple. Si on se réfère au cahier de doléances, le publiciste Malouet disait que le cahier de doléances représentait le dépôt public et irréfragable de la volonté de la nation entière. Si on se réfère à ces cahiers de doléances, et nous en avons beaucoup, on en dispose aujourd'hui de 60 000, alors plus ou moins inégaux, plus ou moins intéressants, je vous dis tout de suite, personne n'est venu à bout de ces 60 000 cahiers de doléances. Mais tout de même, il y a eu des sondages de fait, et on s'aperçoit que les Français rédigeant ces cahiers de doléances avaient une vague idée de ce qu'était la séparation des pouvoirs et qu'ils s'y référaient assez peu, n'est-ce pas ? Certains professeurs ont d'ailleurs parlé de la modération, voire de la timidité des cahiers de doléances, parce qu'ils ne demandaient pas un bouleversement du régime. Ce qu'ils demandaient en revanche, c'était une constitution écrite. Et ça, ça a beaucoup d'intérêt, parce que, comme l'a démontré le professeur Michel Tropper, lorsque la déclaration des droits sera votée, dans son article 16, il sera dit que toute société qui n'a pas de séparation des pouvoirs déterminée n'a pas de constitution. Et le professeur Michel Tropper a démontré que finalement, on nous donnait là la définition littérale d'une constitution. Qu'est-ce qu'une constitution ? Eh bien, c'est simplement un texte dans lequel on sépare les pouvoirs. Donc, lorsque les Français en 1789 demandaient dans leur cahier de doléances une constitution, ça signifiait aussi qu'ils voulaient une séparation des pouvoirs. Mais ils n'ont pas été précis sur la substance de cette séparation des pouvoirs, n'est-ce pas ? On ne trouve pas dans les cahiers de doléances une architecture précise sur la séparation des pouvoirs. Et d'ailleurs, ils n'acceptaient pas de l'exercice du pouvoir législatif le roi. C'est-à-dire qu'il gardait tout à fait la place centrale du roi dans le cadre de l'exercice du pouvoir législatif, certainement en coordination avec un parlement. Bon. Donc voilà pour les États généraux, revendication à minima, on pourrait dire, mais réelle, de la séparation des pouvoirs sous la forme d'une constitution écrite. Arrivent maintenant les débats constituants de 1789, qui vont aboutir donc à notre première constitution écrite, la constitution dite du 3 et 14 septembre 1791, le 3 septembre parce qu'elle fut votée le 3 septembre 1791, excusez-moi, et promulguée le 14 septembre 1791, mais dont l'essentiel en vérité fut déterminé à la fin de l'été 89, à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre, puisque les questions essentielles furent débattues à ce moment-là. Donc, je vous le redis, question essentielle qui se proposait à nos constituants, unité législative avec un parlement monocaméral qui dispose de la totalité de la fonction législative et donc un roi privé de l'exercice de cette fonction suprême, ou alors balance des pouvoirs, donc division de l'organe législatif avec possiblement un parlement bicaméral et possiblement un droit de sanction accordé au roi. Donc c'est en ces termes que le débat se posait. Alors, était-il possible que l'on se dotât d'un parlement bicaméral ? Alors évidemment, la proposition fut faite, parce qu'il faut savoir que les membres qui dominaient le premier comité de constitution étaient des monarchiens, dont les plus estimés publicistes étaient notamment Mounier et Lally Todendal, qui étaient de remarquables publicistes, surtout Mounier à mon sens. Bon. Et que proposaient-ils ? Bien, leur rêve, c'était simplement de naturaliser en France les institutions anglaises. Donc ils ont proposé un plan de constitution avec un parlement bicaméral, une chambre basse et une chambre haute, qui par contre procédait à l'élection, et un roi doté d'un droit de sanction, donc d'un veto absolu. Alors, leur premier échec était finalement, inscrit d'avance, ça a été le refus du bicamérisme. Pourquoi ? Alors, c'est là que notre présence ici, dans cette magnifique salle du jeu de paume, a toute sa signification. Bien parce que C'était impossible qu'il y eût un Parlement bicaméral à ce moment-là, en 1789 en France. Pourquoi ? Parce que c'était, pour la majorité des constituants, revenir en arrière. Comment s'est déroulé le début de la Révolution française ? En juillet 1788, des bourgeois et quelques nobles du Dauphiné se réunissent dans le château de Vizille, qui depuis est resté un endroit célèbre et qui, où on a implanté le musée de la Révolution française, puisqu'on date bien souvent le début de la Révolution française de cette réunion à Vizille, où ils réclament la réunion des États généraux avec cette spécificité qu'il faudrait que l'ensemble des députés représentant les trois États, à savoir le tiers-État, le clergé et la noblesse, se réunissent et votent non pas en ordre, donc séparément, chaque chambre, tiers-État, clergé, noblesse, mais par tête. C'est-à-dire qu'il y aurait un seul corps qui voterait les décisions par tête. Ce qui était une décision essentielle qui rompait avec la tradition des États généraux en France, puisque lorsque la dernière fois en France les États généraux s'étaient réunis, à savoir en 1614, eh bien, suivant les usages et coutumes, comme on disait, eh bien, chaque ordre votait séparément. Et cela, à la fin de l'Ancien Régime, ça n'avait aucun intérêt, parce que l'Ancien Régime, vous le savez, était en train de périr pour ne pas s'être réformé, peut-être pas au plan politique, mais en tout cas au plan fiscal. Il n'était plus possible, effectivement, que seul le tiers-État subisse pour l'essentiel le poids de l'impôt. Bon. Donc, on ne pouvait pas réformer, malheureusement, au plan fiscal, à partir du moment où l'ordre du clergé, et notamment l'ordre de la noblesse, pouvait avoir un droit de veto. Bon. Donc, les bourgeois de Vizille demandaient la réunion des États généraux avec le vote par tête. Bon. Évidemment, le roi ne pouvait pas y souscrire, mais sous la pression populaire, la réunion a lieu en juillet 88. Dès le mois d'août 88, le roi décide de convoquer tout de même les États généraux qui se réuniront à Versailles le 1er mai, est-il dit, 1789. En vérité, ils se réuniront le 5 mai. Bon. Et tout au long de l'année 88, le débat est de savoir, doit-on voter par ordre ou par tête au sein des États généraux ? Pour essayer de faire baisser la pression populaire, Necker, le ministre de Louis XVI, alors à l'époque on prononçait Necre, mais c'est une prononciation qui s'est perdue aujourd'hui, donc je vais dire Necker, avait essayé de trouver un moyen terme en disant, bon, on va continuer de voter par ordre, mais on va doubler le nombre des députés du tiers-État. Ce qui aura son importance par la suite, parce que ce faisant, les députés du tiers-État étaient un petit peu plus nombreux, à quelques unités près, que la réunion des députés du clergé et de la noblesse. Ça aura son importance par la suite. Mais donc, on en restait à la réunion des États généraux dans la forme traditionnelle, avec le vote par ordre. Et notamment, les parlements d'ancien régime, qui avaient eux aussi sollicité la réunion des États généraux, demandaient effectivement à ce que le vote ait lieu par ordre. Que s'est-il passé ? Ben, vous le savez, là-dessus, il y a eu un coup de force, en quelque sorte, du tiers-État. Le 5 mai 89, les États généraux se réunissent. Dès le 6 mai, le tiers-État prend le nom de commune. Et dès le 17 juin, sur l'initiative de l'abbé Sieyès, ces communes se donnent le nom, s'intitulent Assemblée nationale. Le 19 mai, le clergé, par un vote acquis à quelques unités près, se rallie aux communes, mais l'ordre des nobles reste séparé et ne veut pas se rallier aux communes. Le roi essaie de mettre fin à tout cela. En réaction, le 20 juin, le fameux serment du jeu de paume, et de fil en aiguille, donc je passe des étapes, il se trouve que cette Assemblée nationale constituante, se mue en Assemblée nationale constituante à laquelle sont réunis les députés de la noblesse également. Donc les députés de la noblesse sont intégrés à cette Assemblée nationale constituante avec les députés du tiers, les plus nombreux, et avec les députés du clergé. Donc voyez-vous, tout ça, ça avait été une longue bataille au début de la Révolution française pour qu'on ait une Assemblée nationale constituante avec le vote par tête. Donc comment voulez-vous finalement que ces mêmes constituants reviennent en quelque sorte en arrière et réinstituent avec un Parlement bicaméral une sorte de vote par ordre? C'était impossible. C'est la raison pour laquelle l'idée d'une balance des pouvoirs par le bicaméralisme a été sèchement repoussée,
Puisque, pour vous donner un ordre d'idée, lors du vote, il y a eu 849 voix en faveur du monocamérisme et seulement 89 contre et 122 abstentions. Alors, c'est assez drôle de voir 122 abstentions dans un tel moment, mais enfin, c'est ainsi. Bon. Donc, on s'approchait finalement davantage, au regard de ce vote-là, vers une unité législative, puisqu'on n'avait pas de parlement bicaméral. En réalité, ce ne fut pas le cas. Les constituants de 91 ont consacré le principe de la balance des pouvoirs en permettant au roi de participer à la législation. Qu'ont-ils fait ? Ils ont donc institué un parlement monocaméral, qu'on appelait corps législatif, élu pour 2 ans, lequel votait des décrets. Et pour que ces décrets deviennent des lois, eh bien, ils étaient soumis, disait-on, à la sanction du roi, mais qu'ils ne disposaient pas d'un droit de veto absolu, mais d'un droit de veto suspensif. Quel était le principe ? Si d'aventure, après que le roi eut opposé un veto, si d'aventure les deux législatures suivantes votaient à nouveau le même texte, eh bien, les effets du veto étaient réduits à néant, plus précisément. Donc, au final, le roi ne pouvait finalement, le corps législatif persistait, ne pouvait s'opposer à un texte que, disons, à peu près 5 ans et demi à 6 ans au plus. Si donc 3 législatures consécutives votaient le même texte, eh bien, le veto du roi prenait fin. Alors, cela signifiait qu'il y avait tout de même une balance des pouvoirs. Certes, une balance des pouvoirs inégale, parce que le roi n'avait pas un droit de sanction absolu, c'était un droit de sanction suspensif, un droit de veto suspensif, mais tout de même, cela faisait du roi un co-législateur. D'accord ? Alors, c'est posé un problème, je ne sais pas, peut-être il faut que je conclue peut-être, parce que je suis un peu long. Encore un petit peu. C'est posé un problème. Pour assurer l'effectivité de cette balance des pouvoirs, il fallait que chaque organe partiel, à savoir le corps législatif et le roi, ne puisse pas s'influencer l'un l'autre, parce que si l'un influence l'autre, vous n'avez pas d'autonomie. Bon. Alors, qu'a-t-on fait ? Eh bien, pour que le roi ne puisse pas influencer le corps législatif, eh bien, le roi ne pouvait pas dissoudre le corps législatif. Et pour que le corps législatif ne puisse pas influencer le roi, eh bien, la personne du roi était déclarée inviolable et sacrée. Par conséquent, le roi n'encourait ni responsabilité politique, ni responsabilité pénale. Oui, mais alors, problème, ce roi était aussi détenteur du pouvoir exécutif. Donc, si jamais le roi, dans le cadre de l'exécution de la loi, faisait n'importe quoi, s'il ne mettait pas à exécution la loi, ou s'il éventuellement l'appliquait de façon un petit peu spécieuse, comment le sanctionner ? Eh bien, ce fut simple, on a créé un corps de 6 ministres, lesquels étaient nommés et révoqués par le roi à discrétion, avec la seule obligation de ne pas les prendre dans le corps législatif. Ces ministres devaient contresigner toutes les décisions du roi. Et par contre, ces ministres étaient pénalement responsables devant le corps législatif. Donc, si jamais l'exécution de la loi était vicieuse, était spécieuse, on pouvait mettre en cause la responsabilité pénale des ministres devant le corps législatif. Donc voilà comment on a formalisé ce système. Donc, conclusion de tout ça, on établit en 1791 une balance des pouvoirs. Ce qui signifie donc que, pour l'essentiel, on a compris la notion de séparation des pouvoirs comme une règle de non-cumul, puisque le roi participait à la législation. Et je termine d'un mot sur ce point. Ça n'a pas tenu, vous le savez. La Constitution du 3 septembre 1791 est morte le 20 août 1792. Pourquoi ? Parce que on avait mal calibré, finalement, la légitimité. On a mis face à face avec ce droit de sanction une légitimité qu'on appellera républicaine, celle du monde, du nombre, hein, le corps législatif, et une légitimité historique, la légitimité monarchique. Or, le vent de l'histoire était en faveur du nombre face à l'histoire, face au roi. Et vous le savez, au mois de mai 1792, le corps législatif a voté un premier décret par lequel il permettait à 20 membres, ce qu'on appelle les citoyens actifs, ceux qui avaient le droit de vote, d'expulser les prêtres insermentés, c'est-à-dire les prêtres réfractaires qui n'avaient pas souscrit à la constitution civile du clergé. Il permettait donc à 20 citoyens actifs d'un canton d'expulser éventuellement ces prêtres insermentés. Décret de fin mai 92. 8 juin 92, second décret, le corps législatif décide qu'on va créer un corps de 20 000 membres révolutionnaires qui viendra s'installer sous les murs de Paris. Évidemment, le roi prend ça comme une volonté de l'influencer, précisément, une menace personnelle. Et au mois de juin 1792, comme le roi avait 2 mois pour accepter ou refuser ces 2 décrets, il oppose son veto. Tumulte à Paris, je vous passe les étapes, tumulte qui sera renforcé le 25 juillet 1792 par ce qu'on a appelé le manifeste du duc de Brunswick, qui était un général prussien et qui était le chef des armées coalisées contre la France, parce que la France était en guerre depuis le mois d'avril 1992. Ce général déclare que si jamais on attente d'une façon ou d'une autre à la sécurité du roi et de sa famille, il sera fait une vengeance mémorable sur le peuple de Paris. D'où la journée, en réaction à la journée insurrectionnelle du 20 août 1792, où le roi est suspendu de sa fonction et où, de facto, nous avons ici la fin de la Constitution de 91, parce que cette balance des pouvoirs, finalement, était mal calibrée par rapport à la dynamique des légitimités respectives entre la légitimité du nombre qui allait s'imposer et la légitimité du roi qui, d'une certaine façon, était passée d'époque.
Merci. Vraiment, merci de nous avoir ramenés au cœur de ces lieux et au cœur de ces événements. Juste, j'ouvre aux questions s'il y a une ou deux demandes précises sur l'exposé, hein, mais pas de choses générales, s'il vous plaît. Juste demander éventuellement des précisions. Et rapide pour qu'on passe ensuite à la suite, mais attendez, on va vous donner le...
Oui, bonjour.
Allez-y.
Je voudrais
parler dans le micro, en revanche. Hein.
Oui, je voudrais poser la question si, depuis le début, il n'y avait pas une erreur de départ dans la séparation des pouvoirs, ou ce qui concerne la séparation des pouvoirs.
Parlez plus dans le micro, on vous entend pas.
D'une part, on parle des corps d'État, etc., mais on parle peu des personnes. Et moi, j'ai l'impression que la personnalisation de tous ces corps d'État a joué un grand rôle par la suite, comme jusqu'à aujourd'hui même. C'est que il y a l'exécutif qui était personnalisé, il y a la jurisprudence est de plus en plus personnalisée. Moi, je crains aussi que la législative va être de plus en plus personnalisée. Bon. Et c'est ça qui est
merci. Sur l'époque, sur personnalisation et catégorie.
Oui, vous avez raison, le thème de la personnalisation a son importance, et c'est si vrai d'ailleurs que les partisans de la séparation absolue en France, à cette époque, considéraient qu'il ne fallait pas confier la fonction exécutive à une seule personne, quel que soit son titre. C'est la raison pour laquelle ils étaient partisans à la formation d'un organe collégial, auquel serait attribuée la fonction exécutive, justement pour éviter cette notion de personnalisation.
D'accord. Bien, écoutez, on va passer à la suite, après cette vraiment très bonne remise en contexte. Donc je vais demander à Olivier Beau et Michel Troppert de venir maintenant nous parler. Ils auront moins de temps, mais je pense que c'était important de faire cette mise en contexte historique. Et donc, je demande à Olivier Beau et Michel Troppert de venir nous parler de séparation forte et séparation faible. Alors, je pense que de toute manière, je sais qu'ils se sont concertés, qu'ils ont fait non pas une séparation des pouvoirs, mais une organisation des contributions. Alors, donc, par qui commencer ? Par Michel Tropper. Donc, on va commencer en donnant la parole à Michel Tropper. Michel Tropper est né en 1938, professeur émérite à l'université Paris-Ouest Nanterre-la-Défense. C'est un juriste, il a été assistant à la faculté de Lyon, professeur en diverses facultés, et à partir de 1978, à Paris 10 Nanterre. Sa bibliographie, vous la trouverez sur nos sites, mais j'indique simplement quelques ouvrages. Droit constitutionnel, 2011, Le droit et la nécessité, 2011, La philosophie du droit, que sais-je, souvent réédité, La constitution de 1795, La théorie du droit, Le droit, l'État, collection Léviathan. Je lui donne la parole tout de suite.
Merci, Monsieur le Président. Je suis très, très heureux que l'Université de tous les savoirs ait choisi pour thème de ces journées la séparation des pouvoirs. Je vous prie d'excuser ma voix, mais j'ai un petit refroidissement. C'est un principe dont on vous a déjà excellemment parlé il y a quelques instants, ce qui va me faciliter la tâche. Mais je voudrais revenir sur quelques questions de vocabulaire, parce que précisément, le principe a été accepté universellement et revendiqué partout, en partie en raison de quelques confusions de langage. L'expression séparation des pouvoirs a des significations multiples parce que le mot séparation a plusieurs sens et le mot pouvoir aussi. Alors, restons-en pour le moment au mot pouvoir, qui désigne tantôt une fonction, pouvoir législatif, ça veut dire fonction législative, tantôt un organe, une autorité, une institution. Par exemple, dans la phrase « le Parlement exerce le pouvoir législatif », le mot « pouvoir » a le sens de fonction, et dans la phrase « le pouvoir exécutif ne se borne pas à exécuter », le mot « pouvoir » a le sens d'organe. Mais on voit la confusion possible quand on dit le pouvoir exécutif participe au pouvoir législatif. Alors on voit que au début de la phrase, pouvoir signifie organe, et dans la deuxième partie de la phrase, ça signifie fonction. Alors cela dit, l'expression tout entière signifie, on peut distinguer quatre sens principaux. Je simplifie un peu parce qu'on pourrait en distinguer davantage. Mais dans un premier sens, comme on vous l'a dit tout à l'heure, en gros le sens du XVIIIe siècle, il s'agit d'une règle simplement ou d'un principe simplement négatif. Il ne faut pas mettre tous les pouvoirs dans les mains d'un seul, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une institution collégiale. On dit que c'est négatif parce que le principe indique tout simplement ce qu'il ne faut pas faire, ne pas tout donner à un seul. Il n'indique pas ce qu'il faut faire. Il n'indique pas, naturellement, cela implique qu'il faut répartir les fonctions, les compétences, mais on n'indique pas comment. Pourquoi cette règle négative ? Eh bien, on vous l'a dit, parce que si c'est réparti, si les pouvoirs sont répartis, celui qui exécute n'est pas en mesure de refaire la loi au moment où il l'exécute, en fonction de la personne à qui la loi s'applique, en fonction des circonstances ou en fonction des caprices. Donc, lorsque on m'applique la loi, je sais qu'on m'applique une loi qui est ancienne, que je connaissais au moment d'agir, et c'est la définition même de la liberté au XVIIIe siècle. Montesquieu disait « la liberté n'est pas le droit de faire ce que l'on veut, c'est le droit de faire ce que l'on doit vouloir, c'est-à-dire le droit d'être soumis à la loi, seulement à la loi, et pas aux caprices de quelqu'un. » Donc, la séparation des pouvoirs garantit cette forme de liberté minimum, n'être soumis seulement à la loi. Cela dit, il y a bien des manières de répartir le pouvoir. On vous l'a dit tout à l'heure, en gros, deux manières de les répartir, l'unité du pouvoir ou la balance. Dans un deuxième sens, L'expression séparation des pouvoirs désigne précisément la répartition, cette forme de répartition du pouvoir, qui est la spécialisation. Spécialisation, une autorité exerce la fonction législative, une autre, la fonction exécutive. La spécialisation, on le voit, ne nuit pas à l'unité du pouvoir, puisque la fonction législative se trouve dans les mains d'une autorité. Dans un troisième sens, la séparation des pouvoirs est un principe qui concerne les relations entre les autorités. Elles doivent être mutuellement indépendantes, c'est-à-dire que l'une ne peut pas nommer le titulaire d'une autre fonction et encore moins le révoquer. Et donc, on parle d'un système de séparation des pouvoirs pour désigner un système comme celui des États-Unis, dans lequel le président ne peut pas dissoudre le Congrès et les chambres du Congrès ne peuvent pas renverser le président. Dans un quatrième sens, enfin, on parle de séparation des pouvoirs pour désigner une situation dans laquelle les pouvoirs, au sens d'organes, d'autorité, se font mutuellement équilibre, s'arrêtent mutuellement. Et c'est ce que préconisait Montesquieu, bien qu'il n'utilisât pas le terme, lorsqu'il disait « il faut que par la nature des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ». C'est essentiellement de cela que je vais parler. Et deux questions se posent. Comment, par quel procédé, réaliser une telle situation d'équilibre des pouvoirs pour que le pouvoir arrête le pouvoir? Est-ce que c'est possible? Et si c'est possible, est-ce compatible avec la démocratie? Et on peut alors constater que le premier procédé auquel on a songé, la spécialisation, le premier procédé de répartition des fonctions, était parfaitement compatible avec la démocratie. Il était même préconisé par les démocrates. Mais qu'il n'y a pas d'équilibre et que le pouvoir n'arrête pas le pouvoir. Un deuxième procédé, qu'on a désigné tout à l'heure, sous le nom de balance des pouvoirs, d'équilibre, lui est parfaitement efficace, mais il n'est pas compatible avec la démocratie. Donc, premier point, la spécialisation ne permet pas au pouvoir d'arrêter le pouvoir. Et pour me conformer à l'indication de titre qui m'a été donnée, s'il faut parler de séparation faible des pouvoirs, alors la spécialisation est une séparation faible. C'est donc une situation dans laquelle une autorité, le Parlement par exemple, exerce le pouvoir législatif et une autre exerce le pouvoir exécutif. C'est parfaitement démocratique, mais totalement inefficace si l'on cherche à ce que le pouvoir arrête le pouvoir. Parfaitement démocratique parce que le Parlement est élu démocratiquement, du moins on le suppose. Il n'est d'ailleurs pas utile que le pouvoir exécutif soit lui-même élu. Et il faut aussi, pour que ça reste efficace, que efficace du point de vue de la démocratie et conforme à la démocratie, que l'exécutif reste bien subordonné et qu'il soit cantonné dans l'exécution stricte des lois, c'est-à-dire qu'il ne dispose pas d'une très grande marge d'appréciation au moment de l'exécution. Mais naturellement, il faut qu'il ne soit pas en mesure de s'opposer aux lois, cela exclut donc tout droit de veto, même partiel. Ce système est parfaitement démocratique, mais il est très peu adapté au système de l'État moderne, parce que dans l'État moderne, le pouvoir exécutif a nécessairement un rôle dans la législation, il est à l'initiative de la plupart des lois qui sont finalement adoptées par les parlements, et que d'autre part, l'exécution n'est pas une exécution au sens strict, mais c'est une exécution qui implique l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Pourquoi est-ce que ça ne permet pas au pouvoir d'arrêter le pouvoir? Le pouvoir exécutif ne peut pas arrêter le pouvoir législatif pour une raison extrêmement simple. La démonstration en a été faite par celui qui est, à mon avis, mon voisin ne serait peut-être pas tout à fait d'accord avec moi, le plus grand juriste français du XXe siècle, qui est Carré de Malberg. Et la démonstration consiste tout simplement en ceci. Comme on l'a dit tout à l'heure, le pouvoir exécutif pourrait arrêter le pouvoir législatif si les deux fonctions étaient égales, mais il n'en est rien. Le pouvoir exécutif consiste à exécuter des lois qui ont été faites par un autre. C'est donc un pouvoir qui, par nature, est subordonné. Donc, l'autorité chargée de la fonction exécutive sera nécessairement soumise, selon la formule de Carré de Malberg. La hiérarchie des fonctions entraîne la hiérarchie des organes. Mais il y a pire du point de vue de la séparation des pouvoirs, du point de vue du principe négatif. C'est que le pouvoir législatif est en mesure, grâce à la supériorité de la fonction qu'il exerce, de s'emparer du pouvoir exécutif et donc de cumuler les deux fonctions et donc de devenir despotique selon la définition qu'on donnait du despotisme au XVIIIe siècle. À l'époque contemporaine, je mesure mal le temps, j'ai encore 12 minutes, hein, c'est ça à peu près. Bon. À l'époque contemporaine, on a donc cherché des substituts à cet équilibre impossible entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Les substituts n'ont pas fonctionné. L'un des substituts, je ne peux pas les passer tous en revue, mais l'un des substituts a été l'opposition ou la distinction ou la balance ou l'équilibre entre la majorité et l'opposition. Cela ne fonctionne pas, il peut bien y avoir une division entre majorité et opposition, mais du point de vue juridique et du point de vue constitutionnel, l'opposition, quel que soit le sort qu'on lui fait, peut être en mesure de déclencher des contrôles, elle peut être en mesure d'interroger, de questionner la majorité et le gouvernement qui en émane, elle n'est pas capable de bloquer son action, elle n'est pas capable de l'arrêter. Donc cette opposition n'est pas un véritable équilibre. En réalité, aujourd'hui, les seuls équilibres, j'y reviendrai tout à l'heure, les seuls équilibres possibles, les seuls équilibres concevables, sont ceux qui existent au sein même d'une majorité homogène. C'est-à-dire que, comme on le voit quelquefois en Angleterre, un premier ministre qui est le chef de son parti est renversé parce que c'est son propre parti qui le pousse au départ. Donc ce n'est pas du tout un équilibre institutionnel, c'est un équilibre qui existe, qui est réel, mais qui est un équilibre politique. Alors, si l'on revient sur le terrain du droit constitutionnel, le seul équilibre concevable et possible est un équilibre entre différentes fractions du pouvoir législatif, différents organes partiels de la législation, pour reprendre la formule utilisée tout à l'heure par Marc Lamer. Et ce partage du pouvoir législatif entre deux ou plusieurs organes se présente dans l'histoire constitutionnelle sous deux formes principales. La première, celle, pour simplifier, du XVIIIe siècle, celle qu'on a décrite sous le nom de balance des pouvoirs. Elle consiste dans un droit de veto. La deuxième forme, qui est contemporaine, c'est le contrôle de la constitutionnalité des lois. Le système de la balance des pouvoirs d'abord. C'est celui que l'on rencontre dans plusieurs constitutions de la fin du XVIIIe siècle, la constitution anglaise, bien sûr, la constitution américaine, la constitution française de 1791, comme on vous l'a rappelé tout à l'heure, mais aussi dans pas mal de constitutions qui ont été produites en Europe occidentale au début du XIXe siècle, par exemple la charte de 1814 ou la constitution belge de 1830, et on pourrait en citer d'autres. Donc le principe est très simple, le chef du pouvoir exécutif dispose d'un droit de veto. Cela présente aux yeux des partisans deux avantages. D'une part, le chef du pouvoir exécutif peut bloquer toutes les tentatives de la part des assemblées d'empiéter sur la fonction exécutive, et on préserve ainsi la séparation des pouvoirs au sens négatif. Et d'autre part, deuxième avantage, toute législation sera le résultat d'un compromis négocié entre le corps législatif, d'une part, et le roi, d'autre part. Ce qui veut dire que cette législation aura une qualité essentielle, elle sera modérée. Mais ce système, naturellement, s'il fonctionne, il n'est guère compatible avec la démocratie. Un seul sera en mesure d'arrêter la volonté de la majorité des représentants élus du peuple. Et d'ailleurs, si on l'appelle balance des pouvoirs, c'est précisément pour bien montrer qu'il s'agit d'une balance des pouvoirs. On l'appelle aussi gouvernement mixte. C'est un système qui n'est pas de la démocratie, qui est un mixte de démocratie et d'autres choses. D'ailleurs, le système, en réalité, n'est pas très efficace, car de deux choses l'une. Ou bien il existe entre le corps législatif et le roi, ou le pouvoir exécutif, une opposition réelle et profonde. Et ça finit par tourner à l'épreuve de force, comme on l'a vu en 1792. Ou bien le pouvoir exécutif contrôle plus ou moins ouvertement, plus ou moins directement, la majorité des députés qui composent le corps législatif, et dans ce cas, il n'y a pas non plus d'équilibre, parce que les lois qui sont votées avec le consentement du pouvoir exécutif. C'est par exemple ce qu'on a vu sous la charte. Le système ne fonctionne, n'a bien fonctionné, qu'aux États-Unis, mais aux États-Unis, c'est pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas de véritable parti politique, pas de majorité homogène et pas d'opposition. Alors, la forme moderne. La forme moderne, ce qui se rapproche le plus aujourd'hui de l'équilibre ou de la balance des pouvoirs, c'est le contrôle de la constitutionnalité des lois. On la trouve aujourd'hui sous une forme variée. Dans un très grand nombre d'États, les États qui ont institué des cours constitutionnelles sont de plus en plus nombreux. C'est un phénomène qui se répand, qui a commencé à se répandre, surtout après la Seconde Guerre mondiale et avec une fréquence encore plus grande depuis la chute du mur de Berlin. Il s'agit bien d'un équilibre, il s'agit bien d'une balance des pouvoirs. En effet, le contrôle ne peut pas consister simplement à comparer le texte d'une loi au texte d'une constitution qui serait un standard objectif et fixe. La constitution, ça n'est pas le maître étalon qu'on trouve au pavillon de Breteuil à Sèvres. C'est un document souvent rédigé en termes vagues et ambigus, qu'on ne peut pas appliquer sans l'interpréter. Et l'interprétation est une fonction de la volonté qui met en jeu des préférences morales ou politiques. La Constitution n'a pas un sens fixe. La signification, pour reprendre les mots d'un juge de la Cour suprême américaine, la Constitution, c'est ce que les juges disent qu'elle est. Elle n'a pas d'autre sens que celui-là. Et donc les juges qui interprètent la Constitution mettent ou emploient leurs préférences, leurs valeurs d'ordre moral, politique, religieux, etc. D'où un système qui est parfaitement efficace. Ça veut dire que les cours constitutionnelles partagent le pouvoir législatif avec les assemblées élues. Et la difficulté considérable à concilier cette institution avec la démocratie. Car voilà le pouvoir de la volonté, le pouvoir de la majorité des élus qui se trouve arrêté, mis en balance par la volonté de gens qui ne sont pas élus, qui sont des juges, quelquefois très qualifiés, quelquefois beaucoup moins, mais peu importe, des juges qui ont une volonté politique et qui ne sont pas une institution démocratique. D'où des tentatives nombreuses pour tenter de concilier, sur le plan théorique, l'existence de ce contre-pouvoir avec la démocratie. Des tentatives dont aucune n'est pleinement satisfaisante, et si vous me donnez encore 3 minutes, je vais tenter de montrer pour quelles raisons. Les deux principales tentatives consistent, l'une, dans une redéfinition de la démocratie, et l'autre, dans la recherche de mécanismes pour contrôler le contrôleur. Redéfinir la démocratie, première tentative. Eh bien, on va vous dire, la démocratie n'est pas ce que vous croyez. C'est beaucoup plus compliqué que cela. La démocratie n'est pas le pouvoir de la majorité. C'est le règne de certaines valeurs. Or, ces valeurs sont inscrites dans la Constitution. Le rôle du juge constitutionnel, c'est d'imposer le respect de ces valeurs, donc le respect de la démocratie. Voilà, première tentative. Malheureusement, comme on l'a dit tout à l'heure, les valeurs sont inscrites dans la Constitution, peut-être, et encore pas toujours, mais on ne peut pas les connaître sans interpréter le texte de la Constitution, c'est-à-dire sans les recréer à la lumière de ses propres valeurs. Et celles dont le juge impose au peuple le respect, eh bien, ce ne sont pas nécessairement des valeurs qui sont les valeurs du peuple, mais ce sont plus sûrement les valeurs des juges. Donc le système reste bien un système d'équilibre, oui, mais un système d'équilibre entre les choix et les valeurs des élus et les choix et les valeurs des juges. On est encore en présence d'un gouvernement mixte. L'autre voie, l'autre tentative, est celle de contrôler les contrôleurs. Et le grand débat sur le juge constitutionnel est toujours de savoir si le juge est un gardien, qui va garder le gardien. Alors, on ne peut pas naturellement songer à instituer des super-juges, parce que cela aussi, il faudrait les contrôler, et ainsi de suite, à l'infini. Mais on peut réviser la Constitution. Et donc, lorsque les juges emploient la Constitution ou prennent prétexte de la Constitution pour invalider une loi, il est toujours possible de réviser la Constitution, d'adopter en forme constitutionnelle des mesures qui avaient été, dans un premier temps, prises en forme législative. Comme le disait Georges Vedel, notre maître à tous, sous l'Ancien Régime, le souverain pouvait apparaître en majesté et briser la volonté des parlements en faisant un lit de justice. Eh bien, de la même manière, disait-il, quand le pouvoir constituant modifie la Constitution pour surmonter une décision de juge constitutionnel, eh bien, c'est le peuple en majesté qui exerce le pouvoir constituant et qui fait un lit de justice pour briser les cours constitutionnels. Le procédé est parfaitement efficace. Et cette fois-ci, il est conciliable avec la démocratie, mais à deux conditions. Premièrement, que la révision ne soit pas trop difficile. Il y a des pays où elle est extraordinairement compliquée. Et deuxièmement, que la Cour constitutionnelle ne cède pas à la tentation de contrôler la constitutionnalité des lois de révision constitutionnelle. Et cette tentation existe. Certaines cours y ont déjà cédé. Pas en France, mais dans d'autres pays. Il faut conclure. La séparation des pouvoirs est-elle réalisée aujourd'hui dans les démocraties occidentales ? Oui, elle est réalisée, mais ce n'est pas évidemment une séparation du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. C'est une distinction entre des fonctions multiples, maintenues grâce à des équilibres subtils, soit au sein de majorités politiques, soit entre les politiques et les juges. Merci.
Alors maintenant, je vais passer la parole à Olivier Beau. Il est né en 1958, il est professeur de droit public à l'Université Paris 2, directeur de l'Institut Michel Villès, qui était le grand spécialiste de la philosophie du droit. Il a une carrière de professeur de droit à travers différentes institutions. Il a été membre junior de l'Institut universitaire de France. Et je cite quelques-uns de ses ouvrages. « La puissance de l'État » auprès des universitaires en 1994. « Le sang contaminé » et sa critique sur la criminalisation de la responsabilité des gouvernants en 1999. « Une théorie de la fédération » en 2007. Et enfin une contribution « Les libertés universitaires à l'abandon » pour une reconnaissance pleine et entière de la liberté académique, c'est la contribution la plus récente, collective, de 2010. Voilà, je vous donne la parole maintenant pour...
Merci beaucoup. Le paradoxe de la théorie de la séparation des pouvoirs gît bien là. Elle se maintient depuis deux siècles dans le discours juridico-politique comme notion incantatoire, précisément parce qu'elle peut vouloir dire une multitude de choses. Si je commence cette communication par cette citation... tiré d'un livre à paraître, rédigé par un jeune professeur, Sébastien Roland, c'est pour souligner la grande polysémie de l'expression de séparation de pouvoir, qui, d'une certaine manière, va faciliter la tâche qui nous a été proposée par Yves Michaud, que je remercie en passant pour cette invitation, à traiter donc, Michel Tropper et moi, du thème séparation forte, séparation faible. Cette polysémie, à laquelle s'ajoute le pluriel, employé pour évoquer les séparations, nous offre à tous deux une grande liberté dans l'interprétation du sujet. Je ne vais pas m'en priver. Afin de proposer une conférence qui complète celle de Michel Tropper, j'ai décidé, après concertation avec lui, de conférer à ces deux adjectifs faibles et fortes une signification un peu différente de celle qu'il vient de lui donner. De façon conventionnelle, on entendra ici la séparation forte comme celle touchant la séparation des pouvoirs constitutionnels, tandis que la séparation des pouvoirs dites faibles portera sur les pouvoirs dits non constitutionnels. Autrement dit, je conçois la séparation forte comme celle conçue par la doctrine classique que l'on vient d'entendre, qui se réfère à la distribution du pouvoir entre trois institutions, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. En évoquant les séparations faibles comme celles affectant ou devant affecter d'autres pouvoirs qui ne figurent pas toujours ni dans la Constitution ni dans les ouvrages de droit constitutionnel, qui ne sont donc pas considérés comme constitutionnels, je voudrais déplacer un peu le regard en m'intéressant à des pouvoirs et donc à des séparations qui existent au sein de l'État moderne. Mais avant d'entrer dans le détail de cette opposition, il convient de préciser que ces deux séparations s'inscrivent dans la visée originelle de Montesquieu. Selon ce dernier, si l'on veut que les citoyens soient libres et se sentent libres, en sûreté, dit-il, il faut que les pouvoirs soient séparés et divisés, même si cette division n'exclut pas la compénétration des pouvoirs. Toutefois, ce serait une grave erreur de croire que la séparation des pouvoirs engendre la paralysie ou l'anarchie. Comme l'a démontré Guillaume Barrera, auteur d'un récent et important ouvrage sur lui, Montesquieu, je cite Guillaume Barrera, « ne divise pas les pouvoirs de l'État au point de l'affaiblir. Il montre, tout à l'inverse, qu'un surcroît de puissance échoit au régime dans lequel les forces s'équilibrent. La liberté n'est pas le contraire de la puissance, elles vont de pair. Et l'impuissance contre l'opinion reçue accompagne la concentration des forces ou l'usage de la violence. » Fin de citation. En d'autres termes, la séparation des pouvoirs profite aussi bien aux citoyens qu'à l'État, et elle peut rimer avec l'efficacité, pour reprendre un des trois éléments du triptyque qui constitue le titre de ces deux journées de l'Université de tous les savoirs. Je commencerai donc par expliquer pourquoi, moment critique, pourquoi il faut dépasser, selon moi, la séparation formelle des pouvoirs, que j'ai appelée tout à l'heure la séparation forte. Si je plaide en faveur d'une sorte d'extension de la notion de séparation des pouvoirs, représentée ici par la séparation faible, c'est en raison de l'insatisfaction éprouvée par la domination, selon moi, de la conception classique qui est la séparation forte, mais qui est en réalité une séparation formelle de la séparation des pouvoirs. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. La plupart des constitutionnalistes partent du présupposé que la séparation des pouvoirs porte sur la trilogie des pouvoirs, que c'est tout à l'heure, législatif, exécutif et judiciaire, et qu'un tel présupposé remonte à l'œuvre de Montesquieu. On pourrait contester cette seconde proposition, c'est-à-dire cette interprétation de la pensée de Montesquieu, mais par souci de concision, je me contenterai de remettre en cause la première de ces propositions. Selon ce présupposé, la séparation des pouvoirs reposerait sur une théorie de la classification des fonctions de l'État qui est elle-même adossée à une classification des actes juridiques. En effet, la trilogie des pouvoirs repose sur cette tripartition des fonctions étatiques et cette tripartition peut être dite de nature formelle au sens où elle repose sur une identification des fonctions de l'État aux actes juridiques. Bon, j'ai une citation de Raymond Carré-Malberg que tout à l'heure Michel Repère a évoquée, mais je vous passe la citation. Simplement, l'idée est toute simple, que je voudrais que vous compreniez, c'est l'idée d'une triple équation dans cette doctrine classique. Le pouvoir égale la fonction de l'État, la fonction de l'État égale la fonction juridique de l'État, et la fonction juridique de l'État existe sur la base d'un acte juridique précis, qui est, par exemple, la loi pour le pouvoir législatif. Cette triple équation, cette conception que j'appelle formelle de la séparation des pouvoirs, a été réfutée, a été critiquée, mais surtout, à mon avis, réfutée de manière principielle par un grand juriste, Georges Burdeau, qui conteste la réduction de la fonction étatique à l'acte juridique. Définir la fonction par l'acte, écrit Georges Burdeau, c'est oublier que la fonction a d'abord un objet. Accomplir une fonction, c'est faire quelque chose, et c'est ce quelque chose qu'il faut préciser avant de considérer les moyens employés. Et Burdeau, ici, avance une métaphore. Il ne viendrait à personne l'idée de définir la fonction du menuisier en disant qu'elle consiste à utiliser le rabot, la scie ou le ciseau à froid. C'est pourtant ce que font les juristes lorsqu'ils déclarent que les fonctions de l'État se distinguent par l'accomplissement d'actes juridiques d'une nature déterminée. C'est une aberration, poursuit Burdeau, que de prétendre que la fonction de l'État est d'accomplir des actes juridiques. Si l'on fait cela, on en arrive à faire dépendre la fonction de l'acte, l'objet du moyen, l'idée de la technique juridique. Fin de citation. Ensuite, deuxième critique, qui n'est pas moins principielle, consiste à rappeler que la doctrine orthodoxe classique, qui repose sur cette conception formelle, a des difficultés considérables pour identifier ce que j'appelais les trois pouvoirs. Celui qui a donné le plus de fil à retordre, c'est évidemment le pouvoir exécutif qui est si mal nommé, qui s'est si vite émancipé de la notion d'exécution de la loi pour devenir un pouvoir autonome, pouvoir qu'on a appelé pouvoir gouvernemental. Par ailleurs, cette trilogie des pouvoirs oublie le quatrième pouvoir repéré dès la fin du XIXe siècle, qui est le pouvoir de l'administration. Enfin, en outre, cette conception néglige la séparation fondamentale entre pouvoir constituant et pouvoir constitué, et ici c'est le lieu de le rappeler. Enfin, il est bien connu que si en France la justice est considérée comme une fonction juridique de l'État, elle n'a jamais été vraiment perçue comme un pouvoir, mais toujours comme une autorité judiciaire. Jean Foyer, éminent juriste, mais surtout ancien garde des Sceaux, a frappé d'une formule cette idée, la justice, disait-il, en France, un pouvoir refusé. De ce propos liminaire, on voudrait surtout retenir que la principale critique relative à la séparation formelle vise la réduction des pouvoirs à la trilogie formelle, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire. Celle-ci a pour principal inconvénient, selon moi, de masquer l'étonnante variété de la séparation des pouvoirs qui existe dans l'État moderne. Il me semble que l'on comprend mieux l'État d'hier et d'aujourd'hui si l'on sait qu'il est issu d'une série de séparations et de divisions qui relève de ce que j'appellerais la conception matérielle des pouvoirs, que j'ai appelée ici conventionnellement la séparation faible. J'emprunte cette modélisation des fonctions de l'État à un immense juriste, et pour répondre à Michel Tropper, c'est pour moi le plus grand juriste français du XXe siècle, Maurice Aurioux, et je vais vous expliquer maintenant comment on doit, à mon avis, plaider en faveur d'une conception matérielle de la séparation des pouvoirs. Dans ses principes de droit public, Aurioux, en 1910, développe une théorie de la séparation matérielle des fonctions
dans ses développements sur ce qu'il appelle le régime civil de l'État, régime qu'il définit comme étant, je cite, « le régime de liberté et d'égalité institué par l'organisme politique afin que l'automatisme de la société économique puisse jouer à l'intérieur de l'État ». Fin de citation. Ce régime civil de l'État, selon Auriou, repose sur une série de séparations dont certaines portent sur une variété de pouvoirs qui ont pour caractéristique de ne pas toujours être des pouvoirs étatiques, ni d'être des pouvoirs constitutionnels au sens strict du terme. On le comprend tout de suite et très vite quand on examine la première de ces séparations, selon Auriou, qui est celle entre le pouvoir économique et le pouvoir politique. Dans la préface à la seconde édition de ses principes, il écrit « Il n'y a d'État au sens propre du mot que lorsque dans une nation s'est instauré le régime civil, c'est-à-dire lorsque le pouvoir politique de domination s'est séparé de la propriété privée, revêtu de l'aspect d'une puissance publique. Autrement dit, l'État moderne, constitué à l'occidental, donc dans l'histoire occidentale, repose sur, je cite Auriou, la séparation fondamentale entre le pouvoir politique et économique qui repose sur le principe suivant, aucun mélange de propriété et de souveraineté. Auriou définit le pouvoir économique comme celui qui, je cite, réside dans la faculté de procurer autour de soi la subsistance, et il définit le pouvoir politique comme celui consistant, je cite aussi, dans la faculté de créer des situations juridiques avantageuses qui ensuite fournissent à l'occupant des ressources alimentaires. Fin de citation. Dans ce qu'il appelle le régime d'État, qui n'est ni le régime communiste collectiviste, ni le régime féodal, je cite, le pouvoir économique et le pouvoir politique sont séparables et généralement séparés. Et il ajoute, certes, les capitalistes détiennent le pouvoir économique, car ils disposent de la propriété et de l'argent, ils font travailler et salarient le travail, mais ces capitalistes, dit-il, n'ont pas nécessairement le pouvoir politique, qui peut appartenir à d'autres hommes, à d'autres gouvernants. Il en résulte que les uns, donc dit Auriou, profiteront des capitalistes, les autres des hommes politiques, le reste bénéficiera des mesures générales qui auront été prises, des lois protectrices qui auront été votées. Dans cet état d'équilibre, ajoute Auriou, une certaine liberté peut s'établir pour la majorité des individus et il peut se constituer une classe moyenne. Fin de citation. Si l'on devait actualiser cette pensée, on pourrait examiner, à mon avis, le destin des nationalisations. Acte de souveraineté, la nationalisation est un acte d'intrusion du pouvoir politique dans le domaine de l'économie, donc ça semble contredire ce principe de séparation. Mais si on relit les décisions du Conseil constitutionnel de 82 et de 86, on s'aperçoit que le Conseil constitutionnel a fixé des limites sur le domaine d'intervention que ces nationalisations pour caractéristique de ne pas pouvoir valoir pour tout le domaine de l'économie. Cette séparation architectonique doit être fortifiée par d'autres séparations qualifiées par Auriou de contre-force. Parmi ces autres séparations, Auriou considère que les plus importantes pour le droit public sont la séparation du pouvoir militaire et du pouvoir civil, première séparation, la séparation du pouvoir religieux et du pouvoir civil, deuxième séparation, la séparation des pouvoirs constitutionnels, qu'on a déjà évoqué, troisième séparation, et quatrième séparation, la séparation du gouvernement et de l'administration. Je vais évoquer d'abord la première séparation entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire, qui a joué un rôle fondamental dans l'histoire du constitutionnalisme européen, car elle se décline sous la forme du principe de subordination du pouvoir militaire au pouvoir civil. Il ne suffit pas, explique Auriou, d'avoir une force organisée pour protéger la société civile. Il s'agit, dit-il, de la maintenir dans son rôle et de l'empêcher, la force militaire, de devenir un instrument d'oppression. Il faut domestiquer cette puissance matérielle et faire en sorte, d'une part, que le gouvernement de la société civile soit vraiment civil, et d'autre part, que la force armée soit à la disposition du gouvernement civil, qu'elle lui soit subordonnée. Principe de subordination que Auriou fait remonter à l'Antiquité romaine. Et il donne des exemples juridiques, et notamment l'exemple juridique, c'est l'ordre de réquisition. Certes, vous me direz, il n'y a rien dans la Constitution de la Ve République qui explicitement reconnaît cette séparation du pouvoir civil et du pouvoir militaire. Mais le principe n'en existe pas moins. C'est lui qui explique pourquoi le chef de l'État nomme aux emplois militaires, pourquoi le gouvernement déclare l'état de siège et le Parlement le proroge, article 36 de la Constitution, ce qui confirme l'idée selon laquelle la force militaire ne peut être mue que par ordre du gouvernement civil. Cette séparation est tellement inscrite dans les esprits qu'on n'a plus besoin de l'inscrire dans la Constitution. Autrement dit, c'est un principe non écrit. Comme ce fut le cas dans la Constitution de 1791, où figure par exemple une très belle disposition, article 12, titre 4 de la force publique, la force publique
est essentiellement obéissante. Nul corps armé ne peut délibérer. L'importance de cette séparation entre pouvoir civil et pouvoir militaire ne peut être illustrée que par comparaison avec les autres régimes autoritaires qui connaissent cette concentration. Il suffit de citer l'exemple des deux pouvoirs qui viennent de tomber dans les pays arabes, la Tunisie et l'Égypte, qui étaient dirigés par des généraux. Tout aussi instructives sont les remarques de Maurice Auriot sur la séparation entre pouvoir civil et pouvoir religieux, pouvoir spirituel, pouvoir temporel. Il soutient que dans le cas de la rivalité entre l'État et l'Église, la séparation ne pouvait être qu'absolue. La solution du concordat étant vouée à l'échec, explique-t-il. Pourquoi ? La raison vient de l'égale prétention des deux parties à la centralisation absolue. Mais surtout, explique Auriot, il ne s'agit pas seulement d'une rivalité de pouvoir entre deux gouvernements, mais surtout d'une différence d'esprit et d'une véritable incompatibilité du régime civil avec le christianisme. En effet, si la loi de 1905 a dégradé l'Église en pouvoir privé, ces deux sociétés sont incompatibles, et je cite Auriot. L'une s'oriente de plus en plus vers la jouissance des biens, et c'est l'État, et l'autre reste fidèle à l'ascétisme chrétien, et c'est l'Église. Si l'on devait poursuivre la démonstration et l'actualiser, la question de la laïcité est une suite logique de cette séparation fondamentale entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux, question laïque qui est reconnue, je le signale, dans la Constitution de 1958. Enfin, il n'est pas inutile de mentionner ici la séparation faite par Auriot entre le gouvernement et l'administration. Qu'est-ce que veut dire ici Auriot avec cette distinction ? Il entend parler de la décentralisation administrative. L'idée fondamentale, selon Auriot, est qu'il s'agit d'enlever, je cite Auriot, dans une certaine mesure, l'administration au gouvernement pour la donner au pays lui-même, c'est-à-dire à la nation, ce qu'il appelle l'administration du pays par le pays. Si on laisse de côté la dimension institutionnelle, c'est-à-dire la concession aux collectivités locales du droit de s'auto-administrer, l'important me paraît résider dans son propos ici, dans l'idée hétérodoxe selon laquelle l'administration serait une sorte de médiation entre la société civile et l'État, car elle serait, il cite Esmain, un substratum administratif, véritable sécurité de la société civile. Ici, la séparation ne signifie pas l'isolement et l'étanchéité, car le gouvernement conserve un contrôle sur l'administration. Il y a ici un équilibre produit entre l'État et la société civile. On ne peut pas développer davantage les idées ici très fécondes, à mon avis, d'Auriot sur la décentralisation, mais on doit préciser le lien qui existe entre la décentralisation et la séparation des pouvoirs. On utilise souvent, en effet, aujourd'hui, une métaphore spatiale qui consiste à dire qu'il s'agit d'une séparation verticale des pouvoirs. Et d'une certaine manière, la décentralisation est mutatis mutandis, qui existe dans les États fédérés, la question donc du fédéralisme, c'est-à-dire qu'il y a deux niveaux de pouvoir et qu'il y a une séparation. Et c'est d'une certaine manière ce qu'Auriot, à mon avis, très bien expliqué. Si on voulait actualiser la pensée d'Auriot et si on voulait songer à ce qui se passe aujourd'hui avec la décentralisation en France, on pourrait dire que le risque qui existe aujourd'hui est celui de la concentration de pouvoir au profit de ce qu'on pourrait appeler des potentats locaux, comme si le gouvernement n'arrivait plus à contrôler ces nouveaux barons que sont devenus, grâce aux lois de décentralisation, certains grands maires ou certains présidents de région. Le risque était déjà énoncé par Auriot, qui avait bien vu que le risque de la décentralisation administrative risquait et résidait dans cet égoïsme corporatif que Maurice Auriot associé à toute forme de décentralisation. Donc on voit ici une des conséquences possibles d'une concentration excessive du pouvoir. Résumons le propos. La séparation matérielle, dite faible, des pouvoirs chez Auriot, a un double mérite. Le premier est de réintroduire, selon moi en tout cas, dans la discussion juridique, des pouvoirs qui sont en quelque sorte des puissances privées. C'est le cas des forces économiques, relevant de ce pouvoir économique exercé par les puissances capitalistes. Mais c'est aussi le cas de l'Église, si l'on considère d'une certaine manière que l'État a privatisé la religion. Le second intérêt est de prendre en compte des pouvoirs appartenant à l'État, mais qui ne sont pas considérés comme constitutionnels, le pouvoir militaire par exemple, ou l'administration. En cela, à mon avis, Auriot prolonge Montesquieu et l'esprit des lois, livre dans lequel la séparation des pouvoirs en tant que doctrine constitutionnelle n'est qu'une infime partie d'une multiplicité de séparations appelées de ses vœux par le magistrat bordelais. Je conclus sur un point très précis. Comme on le voit, sans nier l'importance de la séparation forte, puisque j'ai dit qu'Auriot avait parlé de la séparation des pouvoirs constitutionnels, il serait bon de penser aux séparations faibles et songer à revitaliser tous les équilibres constitutionnels. Si j'ai cru bon de moderniser la pensée de Montesquieu en recourant à celle de Maurice Auriot, c'est parce que les deux auteurs partagent l'idée exprimée par Jean Starobinski, à propos de l'auteur de l'Esprit des lois. Voici ce qu'écrivait Jean Starobinski. « À la vérité, il faut des contre-pouvoirs en nombre indéfini, de façon que les individus puissent tirer avantage des oppositions compensées. » Fin de citation. Et par pouvoir, il faut comprendre non seulement les pouvoirs politiques, mais aussi les puissances sociales. La séparation faible n'est donc pas aussi faible que l'on croit. Merci de votre attention.
Merci beaucoup, et d'abord merci pour vous en être tenu strictement à l'horaire, y compris en devant sauter quelques pages que nous regretterons. Donc il nous reste un peu de temps pour quelques questions. Les prenons. On va en avoir une seconde. On va vous apporter un. Faites-les assez brèves en vous exprimant dans le métro, dans le micro, pardon. Je commence à être fatigué, excusez-moi.
Bonjour messieurs, c'est surtout à monsieur Tropper que je m'adresse. Je voulais vous dire en conclusion de votre exposé, pensez-vous que l'on peut toujours continuer en France avec un conseil constitutionnel qui pourrait prochainement compter 3 présidents de la République?
Allez-y. Que les autres personnes qui veulent poser des questions se manifestent un peu à l'avance, sachez on va. Monsieur Tropper.
Merci, monsieur. Mais oui, vous avez raison. Vous avez mis le doigt sur l'un des problèmes essentiels, principaux du Conseil constitutionnel, et c'est la composition. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je rappelle que le Conseil constitutionnel comprend 9 membres qui sont nommés chacun pour une durée de 9 ans. Et que, en plus de ces 9 membres, il y a des membres de droit qui sont les anciens présidents de la République. Il y a un problème général qui est la compétence professionnelle et technique, parce que on peut nommer au Conseil constitutionnel une personne, quelles que soient ses compétences juridiques, et même si elle n'en a aucune. Et on a connu dans le passé des membres du Conseil constitutionnel qui n'avaient jamais fait d'études juridiques et même quelquefois pas d'études du tout. Les présidents de la République peuvent être par ailleurs d'excellents, les anciens présidents de la République peuvent être par ailleurs d'excellents juristes, mais ça n'est pas une condition pour devenir président de la République et ça ne l'est pas non plus pour eux pour devenir président du Conseil. Alors ça pose un problème. Et le deuxième problème que ça pose et qui est plus grave, et je pense que c'est à celui-là que vous faisiez allusion, c'est que la neutralité et l'impartialité que l'on attend ou que l'on espère de juges constitutionnels, eh bien, on ne l'a pas de la part de personnalités qui, par hypothèse, ont été très engagées dans la vie politique et qui se trouvent amenées à exercer un contrôle sur des lois qu'ils ont contribué à faire passer.
Tiens, c'est terminé. Terminé. Excusez-moi, terminé. Une question plus loin.
Messieurs, pensez-vous qu'actuellement l'indépendance du pouvoir judiciaire soit menacée?
Il y a été en partie répondu hier, mais je laisse la parole à nos deux juristes.
Ça voudrait dire que l'indépendance aujourd'hui n'est pas menacée. Donc je pense que l'indépendance en France, il me semble, du pouvoir judiciaire a toujours été menacée. C'est un legs de notre histoire. Il me semble que la grande question qu'on n'a jamais réussi à résoudre depuis la Révolution française, qui en fait s'est méfiée des juges, cette question est restée d'actualité. Il y a une tradition française de méfiance à l'égard des juges et on a toujours surveillé les juges. Alors l'indépendance statutaire, elle existe, donc il y a effectivement, on peut dire que du point de vue des règles de droit, il y a une indépendance qui est, enfin je parle des juges du siège, donc il faudrait évidemment distinguer quand on parle d'indépendance, de quelle indépendance parle-t-on. Si on parle de l'indépendance des magistrats du siège, elle est réelle, elle existe. La vraie question que je pense vous avez vue hier, je n'ai pas pu être là malheureusement, c'est la question de l'indépendance du parquet, et là pour le coup elle n'existe pas statutairement. Voilà, donc c'est ce qu'il faudrait, si on voulait, à mon avis, progresser dans l'indépendance de la justice, mais il faudrait aussi des juges responsables, tous responsables, responsables au sens de leur conscience professionnelle et non pas forcément devant des tiers, c'est qu'on arrive à trouver un parquet indépendant. Il y a eu une commission d'Emmas Marty qui a proposé une réforme très intéressante qui a été enterrée. Donc on sait qu'il existe des solutions, mais là, il y a un blocage politique.
Monsieur Tropper.
Moi, j'aurais été tenté de répondre beaucoup plus brutalement. Le pouvoir judiciaire n'existe pas. Dans la Constitution actuelle, d'ailleurs, on l'appelle autorité judiciaire. Sous la Révolution française, on disait que le pouvoir judiciaire consiste à appliquer les lois de façon mécanique et sans exercer de pouvoir discrétionnaire. Donc, les juges doivent être indépendants seulement dans la mesure où il faut éviter que le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif exerce des pressions pour obtenir des décisions particulières. Mais pour le reste, si l'on attend du pouvoir judiciaire une indépendance lui permettant de s'opposer au pouvoir législatif dans son ensemble, alors ça n'est pas du tout ce que voulait la Révolution française, ni la Constitution actuelle d'ailleurs. Sur le second point, l'indépendance du parquet, c'est une question sur laquelle on peut débattre en termes politiques, mais on ne peut pas raisonner si l'on cherche à fonder l'indépendance des juges sur l'indépendance des membres du parquet. Car, il faut quand même le rappeler, le parquet, ce ne sont pas des juges. Le parquet, c'est une partie au procès.
Bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, nous allons faire un petit arrêt de 10 minutes. On recommencera à l'heure. Il est 17h-10, donc nous arrêtons 10 minutes et nous reprenons à 17h, comme il était convenu, pour la table ronde sur réseau, lobby et conflits d'intérêts. Et merci beaucoup.